Au professeur Colette Brun, qui est professeure de journalisme au département d'information et de communication à l'Université Laval, mais qui est aussi rédactrice en chef du projet J, Project J.
Projet J.
Projet J, oui. C'est un site qui traite des affaires qui touchent au journalisme, n'est-ce pas? Alors, allez-y, 15 minutes.
Merci beaucoup. Alors, il me fait très plaisir d'être ici. J'ai absorbé avec beaucoup d'intérêt et la tête bien remplie d'idées tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Et les notes que j'avais préparées pour cette intervention ont pas mal toutes été dites, je crois, aujourd'hui. Alors, je vais essayer peut-être plus d'improviser autour de mon contexte d'enseignante et de chercheur. Donc, je suis très, très sensible, comme Mme Fraser, comme Josée, et je pense comme beaucoup de journalistes l'ont exprimé ici dans la salle, aux conditions matérielles et aux conditions professionnelles de ce métier dans l'avenir. On comprend, sans être non plus corporatiste et vouloir défendre des façons traditionnelles de faire, empêcher la profession d'évoluer, mais de dire est-ce qu'il y aura encore dans l'avenir non seulement des journaux indépendants, mais des journalistes qui pourront être indépendants et pourront exercer cette profession de manière pérenne, c'est-à-dire pas seulement pendant quelques années jusqu'à temps qu'ils s'épuisent ou que leur santé... Je voudrais pas dramatiser non plus, parce que la première chose que je voulais faire ici aujourd'hui, c'est de dire il faut pas se laisser dominer par l'inquiétude. Monsieur Plenel a parlé ce matin de cette espèce de tension entre l'inquiétude et l'espoir. Je pense que c'est la base là, de l'avenir de la qualité de l'information pour les artisans. Et je suis très, très sensible à ça parce que, évidemment, je forme des gens qui aspirent à pratiquer ce métier-là et qui, depuis les débuts des écoles de journalisme, ont été très peu nombreux à pouvoir l'exercer. Donc, on s'imagine que dans l'avenir, les débouchés seront encore moins nombreux. Et pourtant, les étudiants en journalisme continuent d'affluer vers nous, je pense, de plus en plus idéalistes et de plus en plus formés, de plus en plus soucieux d'une information de qualité. Moi, ça me réjouit beaucoup, mais en même temps, je me dis, bon, mais qu'est-ce qui va être l'avenir pour eux? Alors, ce que je leur dis depuis quelques années, sans pouvoir moi-même leur offrir un modèle, c'est soyez débrouillards, soyez autonomes, soyez curieux, ne soyez pas du tout carriériste ou calculateur dans ce que vous voulez savoir et dans ce que vous voulez aller chercher comme formation, mais continuez à travailler sur cette curiosité et cette volonté de comprendre le monde qui vous entoure, sur votre écriture. Oui, aussi sur les outils technologiques, mais je vois ça comme quelque chose de secondaire, comme un moyen, non une fin. Et on verra pour la suite. On parle aussi beaucoup ces temps-ci de la nécessité de l'entrepreneuriat pour développer... l'information de qualité. Je commence à voir au Québec des initiatives qu'on pourrait qualifier de start-up. Branchez-vous en est un exemple intéressant. Des gens aussi, des journalistes professionnels qui choisissent de s'investir bénévolement dans des initiatives d'information, soit hyper locales, soit d'actualité culturelle. Il y a plusieurs exemples. La plus récente, et bon, comme elle est à Québec, je vais me permettre de la plugger, qui s'appelle « Tout le monde s'en fout », alors qui est animée par un journaliste, aussi un de nos anciens étudiants, Mathieu Dugal, donc ancien animateur à Télé-Québec, qui choisit de parler de l'actualité culturelle dont les grands médias ne parlent pas. Alors, c'est encore une fois une approche alternative qui vient combler un manque de l'information conventionnelle. Est-ce que c'est une initiative qui est viable, qui va durer? Peut-être pas. C'est peut-être quelque chose qui va disparaître dans quelques mois ou quelques années. Mais je salue quand même cette tentative d'expérimenter, d'innover. Ce qui manque peut-être, c'est justement d'essayer de trouver une formule de financement stable, comme pour l'exemple du mouton noir dont on parlait tout à l'heure, média alternatif régional. C'est clair que c'est un média qui comble un besoin, mais comment soutenir ça, comment financer ça? Moi, j'ai pas d'outils, donc je suis très contente d'entendre de participer un petit peu à ce brainstorming collectif de cette journée. Mais ce qu'on entend aussi, malgré toutes les initiatives de OSBL et de petites entreprises avec des nouvelles formules, avec peut-être des formules de soutien d'État, c'est que finalement, il y a personne qui a la réponse. Donc, il faut continuer à creuser, continuer à chercher. Et c'est une époque, si on veut, qui nécessite des gens qui sont prêts à prendre des risques, qui sont prêts à essayer des nouvelles choses. Le cas du devoir, puisqu'on est là pour parler, même si le colloque ne porte pas spécifiquement sur le devoir, me semble tout de même, à bien des égards, un modèle, même si c'est pas, ça se conçoit pas nécessairement comme un journal innovateur, mais c'est justement un journal qui maintient le cap, après 100 ans d'existence, sur quelque chose d'assez unique, finalement, dans l'industrie médiatique. C'est un journal qui se rentabilise grâce à une formule très unique de financement. Le mécénat au Québec, c'est pas quelque chose qui est très, très développé. Pourtant, le devoir réussit quand même à inclure ça dans son modèle, si on peut l'appeler un modèle, aussi à compter sur l'engagement de ses artisans, comme José Boileau l'a si éloquemment décrit. Et je pense que effectivement, ça joue beaucoup sur la vocation journalistique, mais aussi sur la force de sa mission d'information, tout simplement, dont on n'a jamais dévié, et sur son intégrité. Et aussi, une autre des forces du devoir, c'est de faire des choix d'information, toujours selon par la force des choses, hein, par l'austérité de ses moyens, donc de se consacrer à des thématiques qui sont fondamentalement essentielles pour une démocratie et qui pourtant sont peut-être pas nécessairement payantes. Alors, on parle de traiter d'enjeux politiques, d'enjeux sociaux, d'enjeux culturels, sans être à la solde non plus d'intérêts puissants, et ça se sent à la lecture de ce journal. Une information internationale traitée essentiellement, il faut le dire, sous la forme de l'analyse. Alors, la qualité de l'analyse, la profondeur, le travail de terrain aussi, en tout cas certainement à Montréal et à Québec. Il y a des excellents journalistes du Devoir à Québec qui font un travail. Parfois, je leur dis, vous faites le travail de 4 journalistes du Soleil, parfois sans rien reprocher à mes amis du Soleil, mais les journalistes qui sont pour le Devoir à Québec font un travail remarquable. Et donc, la capacité de, par cette force de la mission d'information et ce sentiment que la mission d'information, elle est vraiment prioritaire, c'est un levier, en fait, pour mobiliser non seulement les journalistes, mais aussi le public. Et là-dessus, je pense qu'en regardant vers l'avenir, un journal comme Le Devoir peut certainement, cette année, je pense que c'est une année un peu exceptionnelle pour ce qui est d'être en contact et en prise de contact presque continue avec son public grâce à des événements comme celui-ci. Mais il faut trouver le moyen de maintenir ça dans le temps. Alors, c'est quoi la formule? Est-ce que c'est d'organiser des événements? Bon, j'imagine que ça coûte quand même des sous, mais de développer ces alliances-là, en fait, avec le public du Devoir, qui est un public assez particulier. Je regarde ici, enfin, j'écoutais les commentaires tout au long de la journée. Je me disais, c'est rare que j'assiste à un colloque où la qualité des échanges était aussi intelligente, et croyez-moi, je participe à beaucoup de colloques universitaires, donc c'était vraiment très, très agréable. J'ai l'impression un peu de participer à une espèce de société idéale, là, de démocratie idéale, où tout le monde est un peu à l'idéal habermasien de l'espace public, là, où tout le monde est irrationnel, tout le monde est de bonne foi, tout le monde est ouvert aux arguments des autres. Alors, c'est comme un grand fantasme. Mais bon, après ça, on va sortir d'ici et puis on va voir effectivement des gens qui parcourent très rapidement un quotidien gratuit, qui vont continuer à acheter un journal malgré un lockout. Donc, toutes sortes de pratiques d'information ou tout simplement des gens qui s'informent pas du tout, qui vont passer 30 secondes sur un site web puis vont dire qu'ils se sont informés ou sur un portail pour dire qu'ils se sont informés. Donc, on va avoir un très dur retour à la réalité quand on va sortir d'ici. Mais je pense qu'il faut pas quand même trop s'inquiéter de ça, tout en restant vigilant. Pour ce qui est du public, donc il y a des alliés naturels, puis je pense à des gens de certains milieux professionnels tout particulièrement, dont le métier, c'est aussi de diffuser de l'information, de valoriser le débat d'idées, de chercher aussi des réponses, de chercher la vérité. Je pense bien sûr à mon milieu, qui est le milieu de l'enseignement, de la recherche, et l'enseignement, évidemment, à tous les niveaux, à partir du primaire et peut-être même des CPE. Moi, je fais la lecture à mes enfants, et puis mon fils de 8 ans a commencé à lire le journal Le Devoir. Lu quelques textes de Jean Dion, puis il les a compris. Alors, c'est encourageant. Mais Il n'est pas encore rendu à lire les enquêtes sur les textes sur les enquêtes sur la construction. Là, on essaie de garder une certaine innocence là, pour l'instant. Mais il faut initier, évidemment. On a parlé d'éducation aux médias. C'est une chose à laquelle je crois fondamentalement. Je pense qu'il y a un rôle de l'État pour soutenir la qualité de l'information. Je pense qu'il doit être d'abord là, dans le soutien du système d'éducation. Et puis, je prêche pas juste pour ma paroisse, je pense surtout aux écoles publiques. Et je pense pas seulement à l'éducation aux médias, mais à l'éducation à la culture générale, tout court, à l'habitude de la lecture, l'alphabétisation. Je veux dire, on est vraiment dans la base là, de ce qui constitue un public pour un journal. Un public qui ne lit pas, et au Québec, c'est un problème majeur. On a dit depuis tout à l'heure, c'est une petite société, c'est une société qui est pas riche, qui a pas beaucoup de ressources là, pour d'annonceurs, de bassins d'annonceurs et tout ça, mais c'est aussi une société qui ne lit pas ou qui lit très peu. Et je pense que c'est le défi, à mon sens, fondamental pour l'avenir des journaux au Québec, c'est de développer des habitudes de lecture et des habitudes de lecture critique chez la population et surtout chez les jeunes. On a parlé, je vais manquer de temps, je crois. Ça va? Vous allez m'arrêter.
2-3 minutes.
2-3 minutes. Je suis vraiment pas dans mes notes, complètement à l'improviste. On parle de la transition au numérique. Au Québec, la transition des habitudes d'information vers le numérique est en train de se faire très lentement. Le Centre d'études sur les médias a préparé tout récemment une étude, a réalisé tout récemment une étude là-dessus qui montre que, c'est vrai que les jeunes sont davantage sur le web, mais les habitudes sur le web, je pense qu'on en a parlé aussi, sont pas tellement des habitudes d'information, mais surtout des habitudes de divertissement et de consommation. Donc, il y a ce problème aussi de... Bon, ça part, je pense, des habitudes de lecture puis d'une formation civique de base, mais aussi de toutes sortes de distractions, et j'en suis moi-même victime régulièrement. Le trou noir de Twitter m'aspire parfois, et on se laisse entraîner dans le ludique, dans l'insignifiance, et on oublie parfois l'essentiel. Donc, c'est quelque chose qu'il faut combattre, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Je pense que de tout temps, le journalisme a été aux prises... où la démocratie, disons, plus fondamentalement, était aux prises avec un public, des citoyens qui étaient intéressés surtout à se distraire. Mais l'environnement numérique pose cette question-là, pose ce problème-là de manière, il me semble, particulièrement aiguë. Alors, je vais m'arrêter là et j'écoute la suite. Merci.
C'est très encourageant de savoir qu'il y a des enfants de 8 ans qui lisent un journal. Ça, c'est vraiment fantastique. Il y avait beaucoup de points très intéressants dans ce que vous avez dit. Je voudrais ajouter que les journalistes du Devoir à Ottawa sont aussi excellents. Vraiment, vous pouvez en être fiers. Et même chez les anglophones, c'est reconnu en français.